Vous écoutez un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud.
Ce matin, on continue une série de messages. Vous vous en rappelez pas, on a lancé une série estivale qui s'intitule... Je sais pas si ça bug trop, c'est correct. Qui s'intitule Qui s'intitule Vers l'avant. Qui veut aller vers l'avant? Qui veut avancer, progresser dans la vie? J'ai jamais rencontré personne qui me dit, moi, je veux pas avancer dans la vie. En tout cas, sinon, je prie pour vous, parce qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire, c'est sûr. Mais on est encouragé d'aller vers l'avant, et cet été, c'est ce qu'on veut faire, et à travers les différents intervenants, prédicateurs. La semaine passée, c'était ma super épouse qui a parlé de comment être libre de nous-mêmes. C'est sûr que si on est juste rempli de nous-mêmes dans tout ce qu'on fait, on va avoir de la misère d'aller vers l'avant. Et ce matin, je veux continuer et avancer dans la série. C'est bon, c'est un jeu de mots. All right, let's... Vous n'êtes plus habitué de réagir aux messages, vous pensez que vous êtes à la télévision. Vous êtes en face, vous êtes réel, j'ai besoin que vous réagissez, all right? Parce que je n'entends pas ceux qui sont à la maison crier. All right, Philippiens 3:13, si vous avez votre Bible à la maison, vous pouvez suivre au bas de l'écran certainement. Philippiens 3:13 qui dit ceci, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en... » En avant, amen. Philippiens 3:13, dans la version Parole vivante, va dire, « Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. » C'est Paul qui parle ici. « Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Amen. Est-ce que vous êtes prêts à mettre toute votre aide et toute votre énergie vers ce qui est devant vous? Papa Céleste, on te remercie pour ceux qui sont ici en studio, ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent ce matin, famille, Seigneur, peu importe qui ils sont, Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, Seigneur. Et ce matin, glorifie-toi, Papa. La présence de Dieu était tellement bonne, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur, ce matin, Seigneur. On sait qu'on n'est pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Tu es avec chacun de nous. Et Papa, je te remercie parce que tu nous lances vers l'avant dans chacune de nos vies ce matin. Et tout le monde dit... Amen. All right. C'est bon. Super. Je vais juste faire un retour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à partir de ce verset-là, et je vais continuer de creuser ce verset-là aujourd'hui, mais à partir de ce verset-là, il y a deux semaines, on a sorti deux attitudes qui nous propulsent et deux attitudes qui nous arrêtent. Deux attitudes qui nous arrête de nous porter vers l'avant et deux attitudes qui nous propulsent vers l'avant. Et la première était l'orgueil nous arrête, mais l'humilité nous propulse. Et Paul va dire, je n'ai pas l'impression, je n'ai même pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Et on a vu que l'orgueil, c'est l'idée de faire ma volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. L'orgueil, c'est de faire ce que moi je veux au lieu d'obéir à ce que Dieu me demande de faire. Et l'orgueil est dangereux parce que l'orgueil, non seulement va m'arrêter dans mes traces, l'orgueil peut éventuellement me faire chuter. Dans les proverbes, c'est clair. Dans le proverbe, le texte va dire l'orgueil précède quoi? La chute, mais l'humilité, quoi? Précède la gloire. Et on voit cette différence, on voit cette attitude, frères et sœurs, à la maison ou ici, on voit cette attitude qu'on doit développer une attitude de marcher humblement devant Dieu. Et marcher humblement, c'est pas dire, oh, je suis petit, oh, je mérite rien, c'est pas ça. C'est marcher en disant, Père, c'est quoi tu veux que je fasse? Je veux t'obéir. Vous savez, dans la Bible, combien de fois Dieu a dit, peuple au cou raide? Parce que le peuple était orgueilleux. Il ne voulait pas se soumettre à sa volonté. Michée, dans le livre de Michée, ça va dire au chapitre 6, verset 8, ça va dire que Dieu, ce qu'il demande de nous, c'est quoi? C'est de marcher humblement devant lui. Come on! Et je vous ai dit il y a deux semaines qu'il faut découvrir comment se soumettre à la main de Dieu. Et ceux qui vont se soumettre à la main de Dieu, qui vont déposer leur vie dans les mains de Dieu, vont éventuellement voir la main de Dieu se manifester dans les circonstances de leur vie. Qui dit amen à ça? Come on! Est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre sous la main toute puissante de Dieu? Come on! Et deuxième chose que j'ai parlé, c'est que j'ai dit que le passé nous arrête, mais le pardon nous propulse. Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans Ésaïe, je vais en parler dans un prochain message. C'est que Dieu veut faire, il dit d'oublier le passé, je suis en train de faire quelque chose de nouveau, allez-vous le reconnaître? Come on! On veut pas être de ceux qui sont trop aveugles à ce que Dieu veut faire, de pas voir et reconnaître le nouveau que Dieu veut faire dans nos vies. Et pour ça, on doit apprendre à pas vivre dans le passé, parce que le futur n'appartient pas au passé. Qui est d'accord avec ça? Le nouveau de Dieu n'appartient pas au passé. Le nouveau de Dieu appartient au présent et au futur dans ma vie. Come on. Il faut apprendre à pas marcher dans le passé. Il faut apprendre du passé, mais on faut pas vivre dans le passé. Come on. Et j'ai dit ceci. Je sais pas si vous en rappelez, mais c'est une phrase tellement bonne. J'ai dit, tu peux pas vivre le prochain chapitre de ta vie si tu fais toujours relire l'ancien. Est-ce que ça fait du sens? Ou le chapitre d'avant. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que peu importe notre passé, même si on a un passé difficile, ça nous empêche pas d'avoir un futur puissant. Come on. Amen. J'ai besoin d'un amen à ça parce que c'est bon. À maison, est-ce que vous pouvez parler plus fort que ceux qui sont dans ce lieu ce matin? On les sent, la chaleur pèse l'eau ce matin. Come on, êtes-vous là ce matin? Je sais qu'il y a la petite lullaby, la petite, petite chanson de Philou étant, elle pouvait nous endormir un peu. Mais comment? Soyez là ce matin. Soyons réveillés. Come on. Amen. Amen, la maison! All right, je vous entends. Amen. Et le pardon est nécessaire pour aller de l'avant. Se pardonner aux autres, parce que quand on pardonne pas, c'est un poids qui nous empêche, c'est un poids qu'on traîne. Quand on pardonne pas, c'est un poids qu'on traîne, qui nous empêche d'aller de l'avant, qu'on se pardonne nous. Si on se pardonne pas nous, on va toujours vivre dans la douleur, dans le regret. Et si on n'est pas capable de pardonner aux autres, on va toujours vivre dans l'amertume. Et il n'y a rien de pire pour nous empêcher d'aller vers le nouveau de Dieu si on vit dans les vieilles circonstances, dans les vieilles douleurs, dans les vieilles blessures. Est-ce que ça fait du sens? Et le pardon nous propulse vers l'avant. Amen. J'écris cette phrase. Si vous êtes à la maison, écrivez-la sur votre ordinateur. Faites un like, faites un pouce. Si vous êtes dans ce lieu, apprenez-la par cœur, écrivez-la quelque part. Mais j'écris ceci, c'est tellement bon. Écoutez bien ça. L'orgueil et le manque de pardon perpétuent la douleur, mais l'humilité et le pardon apportent la guérison. Come on. Est-ce qu'on veut perpétuer la douleur dans nos vies? Qui veut perpétuer la douleur dans sa vie? Personne encore, c'est la même phrase que qui veut pas aller de l'avant. Tout le monde veut vivre la guérison. Comment? Quand on pardonne, quand on vit dans l'humilité, on apporte guérison. Maintenant, ce matin, je veux qu'on continue à étudier ce texte. Et le titre du message s'appelle « Arrêtez la dérive ». All right? Je vous le dis, dites-le à votre voisin ce matin, à la maison, dites-le à vos enfants. Dites-le à votre famille, dites-le aux voisins, arrêtez la dérive, all right? Il y a une citation que j'ai écrite ceci, qui dit ceci, « Pour arriver à bon port, nous devons lever les voiles, parfois avec le vent, parfois contre le vent. Mais pour y arriver, nous ne pouvons ni dériver, ni jamais ne pas lever l'ancre. » Est-ce que ça fait du sens? Pour arriver à bon port, des fois, il faut lever les voiles avec le vent ou le vent contraire. Mais si on veut se rendre, on ne peut pas dériver, on ne peut pas jamais lever l'ancre. Et Dieu veut nous emmener à bon port. Amen. Dieu veut nous emmener à vivre de l'avant. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. C'est parce que j'ai avalé ma mauvaise haleine depuis une heure dans mon masque. Ça a créé des chats dans la gorge. Et c'est où j'étais là, dans mon message, Isabelle? J'étais où dans mon message? Ah, je parlais de la dérive. Ah, il y en a qui rient. Ah, c'est pour ça que je vous vois pas rire. C'est parce que vous avez tout un masque, je viens de comprendre. Vous riez dans votre masque. Ah, à la maison, vous pouvez rire les dents jaunes, bien ouvertes, mais ici... Je comprends pourquoi on n'a aucune réaction. Tout le monde a son masque à matin. Hey, est-ce qu'on peut les féliciter de ouais, c'est ça, d'avoir l'air. Ouais, vous êtes tough. La salle, vous ne voyez pas, mais je vais vous le dire, la salle est divisée en deux. Il y a les masques noirs, ce bord-là. Il y a les masses bleues ici. Il y a les ninjas ici et les infirmières ici. All right? Alors, ça à la maison, juste vous donner un contexte de comment ça se passe ici. Mais on est tous, on peut tous vivre la dérive. On peut tous dériver de ce que Dieu veut nous emmener. Est-ce que ça fait du sens? Un chrétien peut dériver. Tu peux prier à tous les jours et quand même dériver. Tu peux venir à l'église ou écouter à partir de la maison, tu peux quand même dériver. Tu pourrais être le meilleur serviteur ou leader dans l'église de Jésus-Christ, on peut quand même dériver. Les chrétiens peuvent dériver. Chaque être humain peut dériver. Ça va arriver. Ça a des bonnes chances que ça arrive. À moins que tu sois intentionnel dans ta vie chrétienne, à moins que tu réalises que dériver fait partie de la vie chrétienne, mais que Dieu veut nous ramener à bon port, si on ne réalise pas, on risque de finir ailleurs qu'où Dieu avait planifié qu'on finisse. Est-ce que ça fait du sens? J'ai déjà prêché ceci, cette phrase-là. J'ai dit ceci, que sur la cible de la vie, tout le monde finit quelque part. Mais peu vont finir avec intention. Dans la cible de la vie, tout le monde vit la vie et tout le monde va finir par finir quelque part dans la vie. Mais il y a peu de gens qui finissent à vivre avec intention, qui finissent quelque part avec intention. Et c'est ça la dérive. Pourquoi? Parce qu'on dérive. On est tous susceptibles à dériver. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à la mer? S'il y en a qui sont déjà... Pas la mer, votre mère, mais la mer, MR. Hein? Vous êtes déjà allés à la mer? Je ne sais pas, nous, Myrtle Beach était, parce qu'on ne peut plus y aller, mais était notre endroit de vacances préféré depuis les 6-7 dernières années. Maintenant, on ne peut pas y aller cette année, mais c'est un endroit de vacances. On avait la roulotte, la plage, la roulotte, la plage, le golf, la roulotte, la plage. C'est la vraie vie, all right? Le steak, roulotte, plage. All right, anyway, c'était bien le fun. Mais il y avait quelque chose qui était le fun. Les enfants vont s'en souvenir. On allait chez Walmart. En début de vacances, et on achetait un boogie board. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un boogie board, mais c'est une planche où que tu surfes sur les vagues avec ça. Right? Et là, moi, j'aimais ça. Les enfants, peut-être un peu moins. Mais anyway, moi, mon fun, c'était de rentrer dans les vagues et avec mon poids, que je ne vous dirai pas. Mais des fois, ça levait, des fois, ça ne levait pas. Des fois, mon poids était avantageux, des fois, mon poids était peut-être désavantageux. Mais anyway, et là, tu pousses sur le boogie board. Et la vague t'emmène, et la vague, et là tu reviens, et là, je suis un enfant, hein? Et là, je retourne, puis là, wouh, on fait la vague, puis là, on rentre dans l'eau, wouh, on prend la vague, et après 15-20 minutes, t'es tout excité, t'es tout fier, et tu regardes sur le bord de l'eau, t'essayes de trouver ta famille, et t'es vois plus. Est-ce que ça en a déjà arrivé en allant à la mer? Et là, tu dis, voyons, ils m'ont abandonné, ils sont dans mes poches. Ils sont retournés en roulant, ils m'en ont même pas parlé, ils sont pas venus me voir. Et là, tu te dis, voyons, ils sont où? Ils étaient là, ça fait même pas 20 minutes, ils sont déjà tannés, ils m'ont déjà laissé tout seul. Et là, tu t'aperçois pas qu'ils sont plus en face où que t'es rentré. Ils sont à peu près à 100-200 mètres et eux, ils n'ont pas bougé, mais la vague t'a emmené et t'es où que t'étais rentré, c'est plus là que t'as fini. Est-ce que ça fait du sens? Et la vie est comme ça! La vie est comme ça. On est poussé par les vagues de la vie. J'ai ce chant qui est venu en tête en préparant mon message. Poussé par le vent. Viens dans les poches, me promène. Au gré des saisons, poussé par le vent. Alain, tu devrais connaître ça un matin. Sure, t'as déjà chanté ça. Ouais, c'est un classique. Come on. Éric Lapointe. Come on. J'ai pas été élevé sous Ginette Renault, j'ai été élevé sous Éric Lapointe, désolé. Et la prochaine génération ne connaît pas Éric Lapointe. Est-ce que vous... Non, c'est ça. Oui? All right. C'est de même, la vie est comme ça. Tu rentres dans la vie et tu t'aperçois que où que tu es rentré, avec joie, avec intention, tu t'aperçois que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, tu n'es plus où tu étais. Est-ce que ça fait du sens? Je suis sûr que vous avez déjà réalisé ça dans la vie. Et bien, des fois, on perd enthousiasme aux choses de la vie parce qu'on se dit, « Hey, je suis rentré là, je ne suis pas rentré pour ça. » Il y en a qui, je suis sûr, vous avez déjà dit, « Hey, je ne suis pas rentré pour faire ça, moi. » Et on s'aperçoit qu'on a dérivé dans la vie. Et ça peut arriver dans notre couple, ça peut arriver dans nos finances, Ça peut arriver dans notre santé, ça peut arriver... Qui sait que la bédaine dérive un moment donné dans la vie? Est-ce que vous avez déjà... Moi, j'ai vécu jusqu'à 25 ans sans bédaine, pensant vivre toute ma vie à 155 livres. Et un moment donné, mon poids a dérivé. Je n'ai pas fait exprès. C'est pas là que je suis rentré dans la vie. Je suis rentré à 12 livres. Mais des fois, les choses de la vie dérivent. Ma santé, ma passion pour Dieu peut dériver. Come on! Et je peux-tu être franc avec vous? Que la majorité des rencontres pastorales que j'ai, je vous parle à la maison, autant que vous êtes ici, la majorité des rencontres pastorales que j'ai avec n'importe qui, homme, femme ou couple, est la résultante d'une dérive dans une sphère de leur vie. En majorité des rencontres que j'ai, que ce soit de couple, que ce soit personnellement, la majorité des gens que je rencontre, c'est la résultante d'une dérive spirituelle, émotionnelle, de travail, peu importe. Et on arrive au bout, on arrive à un moment dans nos vies qu'on dit, come on, où que je suis rentré, je ne suis plus rendu là, je ne sais plus où que je suis. Je ne suis plus où que je m'en vais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? C'est où que je m'en vais là? C'est quoi qui est devant moi? Et c'est ce que je veux vous dire ce matin. On veut aller de l'avant et il faut être honnête, on peut dériver. On risque de dériver et si on n'est pas conscient qu'on peut dériver, on va aller et on va vivre aléatoirement. Et sur la cible de la vie, on risque de ne pas finir où Dieu avait planifié qu'on finisse. Est-ce que ça fait du sens? Ce matin, je crois que c'est un super bon message. Amen. All right, merci pour le amen. Et il y a quatre choses rapides que je veux vous dire. All right? Êtes-vous là à la maison? J'espère que vous êtes encore là. Vous avez votre café, vous autres. Alors, vous devriez être en forme. Et savez-vous quoi, le pire avec la dérive, c'est que des fois, on pense que c'est Dieu qui s'est éloigné de nous. Est-ce que vous avez déjà dit une fois dans votre vie, hein, « Il me semble que Dieu est loin. » All right, merci pour cette main. À la maison aussi, je suis quelqu'un pour m'enlever la main. On a probablement tous dit, « Savez-vous quoi, Dieu n'a jamais bougé, c'est nous qui s'est éloigné de lui. » Dieu ne bouge jamais. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu dit, jamais je vais te délaisser, jamais je vais t'abandonner. Si tu te sens loin de Dieu ce matin ici, ou si vous m'écoutez à la maison, si vous sentez loin de Dieu présentement, Dieu ne s'est pas éloigné de vous, c'est vous autres qui avez dérivé. Come on. Et ce matin, c'est le temps de revenir proche de Dieu. Amen. C'est le temps de revenir à la maison. C'est le temps de se réaligner avec ce que Dieu a vers l'avant pour vous. Amen. Amen. Moi, je dis amen. Tu sais pourquoi je dis souvent amen ce matin? C'est parce que c'est bon. Amen. All right. Super. Je sais qu'un masque a de la misère à respirer. Il y en a qui font juste respirer un matin dans la salle. Amen. Il y a quatre choses rapidement. OK, je vais vous parler. Êtes-vous là? À la maison, vous êtes là, quatre choses rapidement, si vous prenez des notes. On dérive. Pourquoi on dérive et comment on dérive? On dérive comment? Graduellement. C'est graduel quand on dérive. Il n'y a personne qui s'est levé un matin en disant « Aujourd'hui, je dérive. Aujourd'hui, je m'éloigne de Dieu. » Alléluia! Ah, j'aime ça m'éloigner de Dieu! Il n'y a personne qui se réveille comme ça un matin. Tout le monde, quand on dérive subtilement. On dérive parce que on prend pas soin de notre vie spirituelle. On dérive dans notre couple parce qu'on prend pas soin de garder la flamme. On dérive dans nos relations parce qu'on prend pas soin de les garder. Et dériver, c'est graduel au point qu'on réalise pas qu'on est en train de dériver. Est-ce que ça fait du sens? On oublie où qu'on était rendu. On oublie pourquoi qu'on a choisi telle ou telle personne. On oublie pourquoi on a fait telle ou telle décision. Et on réalise que juste plus tard, que peut-être même dans notre appel, il y en a qui viennent me voir, qui me disent, « Ah, je ne sais plus ce que Dieu veut faire de ma vie. » Pourquoi? Parce qu'on a dérivé tranquillement. On a pris pour acquis le plan de Dieu pour notre vie. On a pris pour acquis ce que Dieu voulait faire. On n'a pas pris soin de l'appel de Dieu sur nos vies. Et des fois, on arrive à 50, 60 ans, puis on dit, ah, il me semble que j'ai manqué ce que Dieu a pour moi. Come on! Dieu va toujours acheter le temps. Et Dieu est capable d'acheter le temps, mais il faut se réaligner. Il faut se réaligner. Et quand on dérive, c'est graduel. Il faut rester réveillé. C'est drôle le thème, même le premier chant. Même Anna disait, elle dit, il faut rester réveillé. Come on! S'il y a quelque chose qu'il faut faire dans notre vie, c'est de rester réveillé. La Bible va dire souvent, réveille-toi, toi qui dors. La Bible dans le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau va dire, veille, veillez et priez. Comment il y a cette dimension dans la parole de Dieu. Wake up! Parce que l'ennemi veut nous endormir à petit feu, right? Il veut qu'on manque d'air, tranquillement, pas vite. Il veut nous mettre un masque. Et quand on manque d'air, tranquillement, pas vite, le cerveau, il manque d'air, manque d'oxygène. Et qu'est-ce qui se passe? On s'endort sur le sofa. On l'a pas réalisé. On s'est endormi. On voulait pas s'endormir. On s'est endormi. Pourquoi? Parce qu'on s'est tranquillement laissé aller. Come on. Il faut s'assurer de pas graduellement perdre le cours de ce que Dieu veut faire. Deuxième chose. Un, on dérive parce que c'est graduel puis on réalise pas. Deux, on dérive parce qu'on est distrait. On est distrait. Y a-tu des conducteurs distraits ici dans cette salle? Il y en a qui lèvent la main, vous êtes gentils. Il y en a qui n'osent pas le dire. Je ne peux même pas savoir si vous avez un sourire guilty, je ne sais pas comment dire ça en français. Coupable, je ne peux même pas savoir si vous avez un sourire coupable à la maison. Peut-être que vous avez un sourire coupable. Moi, moi, sur l'autoroute, je suis un conducteur distrait. Je suis très attentionné. Je crois que je suis un bon chauffeur. J'ai quand même été chauffeur d'autobus. Et quand tu es chauffeur d'autobus, il faut que tu fasses vraiment attention parce que tu as des petites vies en arrière de toi que tu veux prendre soin. Mais sur l'autoroute, j'observe tout. Et la majorité du temps, ma famille ne le voit pas parce que le temps que je dise « Hey, check! » c'est passé. Et un matin, c'est un camion. Et j'oublie toujours de dire « Qu'est-ce qu'il faut que les gens checkent? » Et je dis « Check, il est beau, lui! » Et je parlais d'un camion. Ma femme, elle ne savait pas regarder les nuages. Comment tu sais ça? Y en a-tu que ça leur arrive? Alors, moi, je suis distrait. Mais quand tu es distrait, c'est quoi qui risque d'arriver? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà failli pogner le champ en étant un petit peu trop distrait avec les choses autour d'eux? En bicyclette ou en auto. Hein? Levez pas la main, vous êtes subtil. J'espère que ce n'est pas comme ça que vous avez donné votre vie à Jésus. J'espère qu'il y a plus de conviction. All right. Mais ça arrive. Savez-vous pourquoi on est distrait? Parce que tout d'un coup, on voit quelque chose qui semble plus intéressant là de ce que Dieu a mis devant nous. Et des fois, on pense que, oh, le voisin ou la voisine est plus intéressante, ou les choses là, ou cette offre-là est plus intéressante, mais Dieu te demande de keep the course. Dieu te demande de garde le chemin, garde la course, et même si ça a l'air plus intéressant là, ce que Dieu a pour toi est devant toi. Come on. Et trop de fois, on est distrait de ce que Dieu veut faire dans nos vies. On est distrait, et on est distrait par le travail, fait qu'on néglige notre couple et notre famille. On est distrait par les mensonges de l'ennemi. On néglige la vérité de la parole de Dieu. On est distrait, j'ai écrit d'autres exemples ici. On est distrait par le plaisir et l'occupation. On oublie nos responsabilités. On est distrait par l'appât du gain et notre propre personne. Et on oublie notre service et notre mandat envers Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Amen. Merci pour ce amen confiant. Samson était distrait. Si vous connaissez l'histoire, son histoire de la Bible à la maison, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Samson, mais Samson a été distrait. Samson a eu Dalila dans sa vie, et Dalila a été payée pour savoir ses secrets, et Samson a été distrait au point de jouer avec son mandat, de jouer avec son appel sur sa vie, de jouer avec ce que Dieu avait planifié d'avance pour lui, de jouer avec ce que Dieu avait mis de l'avant pour lui. Et un moment donné, il a dit le vrai secret que c'est dans ses cheveux, par la puissance du Saint-Esprit. Et voici à Juges 16 que ça dit. Samson se réveille, le matin, il réalise pas qu'il est allé chez le coiffeur. Et ça dit que les Philistins sont sur toi. C'est Dalila qui dit ça. Elle dit, Samson, il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Savez-vous qu'est-ce qui arrive quand on dérive le Saint-Esprit? Il se calme un petit peu. Il nous laisse à nos propres décisions, à notre propre dérive, jusqu'à temps qu'on vienne à lui. Est-ce que vous êtes là ce matin? Les Samson dérivés. Samson! Loin de l'Éternel! Juge pour la nation! Qui a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'onde, comment? Qui a pris les portes de la ville, qui les a transportés sur une montagne, qui a attrapé 300 renards, qui les a attachés par la queue. C'est-tu pas cool, ça? c'est dans la Bible. Samson avait le temps de faire ça dans ce temps-là, right? Rallez-vous, Samson, loin de l'Éternel, a été distrait par Dalila. Il a perdu son onction, perdu le mandat qu'il a eu pour sa vie, jusqu'à temps que Dieu lui redonne quand il s'est repenti à la fin. Est-ce que ça fait du sens? Attention de ne pas être distrait. Essayons de se rappeler des promesses de Dieu pour nos vies, ne pas être distrait de ce que Dieu a planifié. Amen. Troisième chose, on dérive graduellement, on dérive parce qu'on est distrait, on dérive parce qu'on est pas, on est dépassé. On est dépassé. On en a trop. On est fatigué. Et la majoritairement du temps, quand je rencontre des gens fatigués, je rencontre des gens qui ne savent plus où ils s'en vont. Je rencontre des gens qui se demandent ce que Dieu veut faire avec leur vie. Pas parce que Dieu a changé, pas parce que le mandat a changé, c'est que la fatigue nous fait dériver. La fatigue nous arrête, on en a trop, on n'est plus capable. Et pourtant, Paul va dire, je fais quoi? Fais combien de choses dans le texte qu'on a lu? Je fais mille et une choses. C'est quoi que Paul va dire? Il va dire, je fais une chose. Et je tends toute mon énergie vers ça, d'aller vers ce qui est devant. Mais je ne fais pas des millions de choses. Et quand on est dépassé, c'est parce qu'on fait trop de choses. Et souvent, on est dépassé et les gens dépensés, quand on est dépensé, souvent on n'est pas prêt à dealer avec la circonstance dans laquelle on est. On en a trop. Et savez-vous ce qu'on dit quand on est dépensé, quand on est impuissant? On dit, quand ça va être passé, je vais le faire. Dès que cette saison-là va être finie, je vais le faire. Et savez-vous quoi? Ça finit jamais! Ça finit jamais. On reste dans une saison de fou. On reste dans une saison de fou parce qu'on a peur de lâcher des choses. À cause qu'on a peur de lâcher des choses, on prend plus de choses. À cause qu'on est tellement des fois insécure de laisser des choses dans le passé, ce temps va jusqu'en avant. On reste rattaché. Fait qu'on accumule, on accumule, on accumule, on accumule. De manière, on écrase. On est fatigué. On est dépassé. On n'est plus capable. Et on arrête. Et on manque de marcher de l'avant. On manque ce que Dieu veut faire dans nos vies. Amen. Êtes-vous la maison? Amen. Je veux vous entendre à la maison. Je veux vous entendre que vous vous entendez. Élie a été dépassé. Élie, le super prophète de Dieu. Élie a couru plus vite qu'un roi dans son chariot. Ça, c'est digne d'Astérix ou Obélix. Come on. All right. C'est cool. Élie a ressuscité des morts. Élie a ressuscité un enfant des morts. Comment? Élie a prié pour que la pluie arrête pendant 3 ans, puis elle a arrêté. Comment? Élie a combattu les prophètes de Baal, les 400 de Baal, les 450 de l'autre. Le feu de Dieu est descendu. Ils ont tout zigouillé à vrai. Come on! Élie, là. Je ne sais pas si ce mot-là dit dans l'église, mais c'est pas grave. Come on, Élie. Ils ont tout tué. Élie, un moment donné, il arrive. Plus capable. Fatigué. L'homme de Dieu, pourtant, est arrivé qui était dépassé. Voici ce que ça dit. Dans un roi, ça dit, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt, sous un arbre, et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Wow! Héros a découragé. Pourquoi? Parce qu'un moment donné, il était fatigué. Un moment donné, il était découragé. C'est la femme d'Akab qui courait après Jézabel. Jézabel a couru après la pression, la peur. Et à un moment donné, il était dépassé. Est-ce que vous savez qu'on peut dériver quand on est dépassé? on marche sous le poids, sous la fatigue. Et quand on ne prend pas le temps de s'arrêter, quand on ne prend pas le temps de dire, OK, il faut que je fasse une pause, il faut que je claire mes priorités, je fais une chose. Et je vais en parler dans les prochaines semaines. Comment focusser vers l'avant? Come on, amen? Déjà, juste le titre, ça a l'air bon. Et je veux focusser ce qui est devant moi pour arrêter de dériver. Amen? Prenez soin de vous. Allez réécouter ma série de messages sur RIP divin. Allez ressortir votre roue. Allez réécouter ma série de messages. Je ne l'avais pas écouté au complet. Écoutez-le de bout à bout comme une série Netflix. All right? Saison 1, saison 2, saison 3, bout à bout. All right, vous allez voir, ça va vous parler, ça va vous rentrer dedans. Mais il faut découvrir un rythme divin dans votre vie. Quatrième chose. Un, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on dérive tranquillement, graduellement, on dérive. Mais moi, je m'en rappelle, parce qu'on est distrait, parce qu'on est dépensé. Dernière chose, on dérive parce qu'on est désillusionné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être désillusionné? La délusion, c'est la différence entre ce qui est vrai et ce qu'on pense qui est vrai et la réalité. La désillusion, c'est entre ce qui est perçu et ce qui est réel. Et quand on est désillusionné, il y a une situation X devant nos vies. Et même si toutes les personnes verraient bleu, nous, on voit rouge. Est-ce que ça fait du sens? Toutes les personnes pourraient nous dire, « Non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Nous, la perception, comment on la voit, c'est rouge. Tu pourrais me dire, Isabelle, tu pourrais me dire, « Tant que tu veux que c'est bleu, je ne crois pas que c'est bleu. » Moi, je le perçois comme étant rouge. Et on est désillusionné. On pensait que c'était pour arriver de cette façon-là et ça n'arrive pas de cette façon-là. On est désillusionné. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous avez déjà été désillusionné de cette façon-là? Merci pour ceux qui sont honnêtes. Et on pense que ça va se passer comme ça et ça ne se passe pas comme ça. Le vécu et le perçu n'est pas pareil. Et on est déçu même. On est déçu de Dieu. On peut même être déçu de parce que ce n'est pas arrivé comme on pensait que ce n'était pas arrivé. Henry Ford a dit ceci. Oui, le gars qui a créé les autos Ford. Il dit, si tu crois que tu peux faire quelque chose ou non, tu as raison. Tout simplement, si tu crois que tu peux réussir, tu as raison. Puis si tu crois que tu ne vas pas réussir, tu as raison aussi. Dans le sens que comment tu vois les choses affecte comment tu vas vivre les choses. Si tu vois que tu es capable de le faire, il y a des bonnes chances que tu le fasses. Si tu vois que tu n'es pas capable de le faire, tu as raison si tu n'es pas capable de le faire. Est-ce que ça fait du sens? Et Dieu nous appelle à sortir de notre désillusion et de voir ce qu'il veut faire vers l'avant. Et Naomi, dans le livre de Ruth, était désillusionnée. Naomi, dans le livre de Ruth, dans les 5 versets, sa vie crash. Passe de là à zéro. Sa vie crash. Dans 5 versets, sa vie crash. C'est pas long, ça, 5 versets. C'est 3 secondes à lire. Bon, en réalité, ça n'a pas pris 3 secondes, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'ils partent à l'aventure, elle, son mari, ses 2 fils s'en vont vers l'avant, ils partent du pays d'Israël, ils s'en vont au pays de Moab, ses 2 fils se marient, la famine arrive, pas à son mari, pas à ses 2 enfants, en l'espace de rien, et Naomi est désillusionnée, est fâchée après Dieu. J'avais même prêché là-dessus il y a quelques semaines. Elle est fâchée, même elle va dire dans Ruth, verset 20, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, quand elle est partie vers l'avant, elle était dans l'abondance, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Ce n'est pas l'Éternel, mais c'est comme ça qu'elle perçoit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dites « Amen ». Merci. Elle s'est dit, pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Wow! La vision de Naomi, elle a rapetissé. Que vous comprenez? Elle voit plus. Elle voit plus ce que Dieu peut faire. Elle voit plus le lendemain. elle ne voit plus la vision que Dieu pourrait avoir pour elle. Elle ne voit pas ce que Dieu veut faire et la rentrer dans la lignée de Dieu à travers eux. Est-ce que vous me suivez? Quand on est désillusionné, on voit un petit la vision de Dieu et on manque tout ce que Dieu veut faire dans notre vie. J'ai écrit ceci. J'ai dit, ce que tu vis là n'est pas la fin de ton histoire. Amen. Ce que tu es en train de vivre présentement n'est pas la fin de ton histoire. Si c'est positif, gloire à Jésus, continue dedans. Si c'est négatif et tu trouves ça difficile, réalise que ce n'est pas la fin de ton histoire, que Dieu rachète les choses pour sa gloire. Amen. Et que Dieu veut nous réaligner ce matin. À la maison, sachez que Dieu veut vous réaligner. Come on. Dieu veut vous ramener vers l'avant. Est-ce que vous avez dérivé? Dans une ou plusieurs sphères de votre vie, avez-vous dérivé? Et laissez-moi vous dire que quand on dérive, ça coûte cher. Il y a des conséquences à dériver. Quand on dérive, il y a du regret parce qu'on réalise qu'on aurait dû faire ça au lieu de faire ça. Quand on dérive, ça coûte cher parce qu'on va dans des directions qui nous font perdre notre temps ou perdre des relations. Quand on dérive, comment même on a de la douleur? Parce qu'il y a des événements qui n'étaient pas planifiés, mais qu'on rentre dedans parce qu'on s'éloigne de où le plan de Dieu était pour notre vie. Quand on dérive, ça a des conséquences. Mais, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Qui veut savoir la bonne nouvelle ce matin? Amen. Que la dérive nous arrête, mais que la repentance nous propulse. Amen. La dérive nous arrête, mais la repentance nous propulse. Et souvent, on va dire repentance, c'est un mot qu'on entend toujours, c'est un mot qu'on a déjà entendu. Mais la repentance est la solution à la dérive dans nos vies. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas l'effort mental, ce n'est pas la force psychologique. La repentance est la seule solution à la dérive dans notre vie, à la dérive spirituelle, à la dérive émotionnelle, à la dérive dans nos choses, dans les circonstances de nos vies. C'est la repentance. La repentance, laissez-moi vous dire quelque chose, la repentance n'est pas une émotion. Je vais le dire à ceux à la maison. La repentance à la maison, la repentance, ce n'est pas une émotion, frères et sœurs. La repentance, c'est une décision. Allô? La repentance, c'est pas du regret. Oh, je m'excuse. Oh, j'aurais pas dû en faire. Tu sais quand tu te repens pas, quand quelqu'un dit je m'excuse, mais il va le refaire cinq minutes après. C'est pas de la repentance. C'est du regret. Et on vit souvent avec l'émotion du regret. Ah oui, je regrette, je regrette. Mais la repentance, c'est un changement. La repentance, c'est une décision. La repentance, c'est un changement d'attitude et de caractère. Paul va dire, je me préoccupe d'une chose. Je fais une chose. Faire. Je fais. Je prends la décision de me propulser vers l'avant. Je prends la décision de tendre toute mon énergie. C'est une repentance. Est-ce que vous me suivez? Dans le grec, le mot repentir, ça veut dire un changement de pensée. Je change de pensée. Je change comment je pensais. Je pensais comme ça et maintenant j'ai la clarté de Dieu. J'ai la clarté des conseils spirituels autour de moi et je change ma pensée. Avant, je pensais rouge. Tout le monde me dit que c'était bleu, mais à cause que je me repens, non, je ne tiens pas que c'est rouge. Je ne le vois pas que c'est bleu, mais je fais confiance au Seigneur que c'est bleu et je marche. Je change ma pensée pour croire en lui. Je change ma pensée. Je veux. Avant, je vivais pour moi, de ce bord-là. Maintenant, je vis pour Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Avant, je vivais pour mes propres besoin. Maintenant, je vis pour servir le Seigneur. Et comme Anna a dit la semaine passée, c'est pas à propos de moi. Et ça change tellement la vie quand on vit notre vie pas à propos de nous. Que l'Église n'est pas à propos de nous. Que le travail n'est pas à propos de nous. Que Dieu n'est pas à propos de nous, mais que nous, on est à propos de lui. Amen. Et c'est ça la repentance, un changement de pensée. Et dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, la repentance, c'est un turnaround. Comment on dit ça en français, les enfants? Turn around, nanana. C'est quoi, turn around? Je l'ai écrit dans mes notes. Un faire demi-tour, all right. Merci pour mes notes. dans l'hébreu, repentance, c'est de faire demi-tour. C'est un 180 degrés. Je m'en allais dans cette direction-là. Je m'en allais à la dérive. Je négligeais ma vie spirituelle. Je négligeais ma famille. Je négligeais de prendre soin de moi. Je négligeais ma parole de Dieu. Je négligeais quelque chose. Je m'en allais dans la dérive, dans la direction. Et la repentance, c'est un 180 de Dieu. C'est pas un 180 degrés. C'est pas une émotion. C'est une décision qu'à partir de maintenant, je m'éloigne de Dieu, mais je me tourne vers Dieu. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est comme le fils prodigue. À un moment donné, il s'en allait. Il a dit, je veux mon héritage. Il est parti à la dérive, à la grosse dérive. Perdu son argent avec les prostituées. Perdu son argent dans le jeu. Perdu son argent, sex, drugs, and rock and roll. Hein? Et à un moment donné, il arrive, il mange la bouffe de cochon. C'était pas du bacon. Et ça dit qu'il est rentré en lui-même, il a pris une conscience, il a eu une repentance et il a changé de degré. Il a dit, je suis mieux à la maison. Et il s'est tourné vers le Père et il est rentré à la maison. Il pensait qu'il n'était pas digne, mais Dieu le Père lui a dit, viens, on va tuer l'agneau gras, on fait le party parce que tu es de retour à la maison. Amen. J'ai aimé la chanson de, pas aimé, mais dans le sens que, en la réécoutant ce matin, la chanson d'Éric Lapointe, à la fin, il retourne à la maison. J'avais jamais réalisé ça, parce que moi, la seule phrase que j'avais retenue, c'est « Poussé par le vent, terre promise. » Ça, c'est un autre. Mais à la fin, il revient à la maison. Et ça me faisait tellement donner l'image, je ne sais pas si Alain t'a déjà fait l'association, mais ça me donnait tellement l'image du fils prodigue. Il est poussé par le vent, il est crasseux, c'est ça qu'il dit. Mais à la fin, il dit, je retourne à la maison. Maman, je rentre à la maison. Maman, ton fils rentre à la maison. Ton enfant revient. Come on. Et ça m'a frappé, c'est tellement une image du fils prodigue. Et la repentance, c'est pas pour seulement les gens qui connaissent pas Dieu, frères et sœurs. La repentance, c'est pour chacun d'entre nous. Parce que tout chrétien va dériver un jour dans sa vie. Tout chrétien va dériver un jour. Vous ne me ferez pas croire que dans 40 ans de vie chrétienne, vous êtes toujours right on, sur le chemin de l'avant. Et vous n'avez jamais dérivé à gauche et à droite et jamais checké le chevreuil sur le bord du chemin puis failli pogner le champ. Dans notre vie chrétienne, on dérive et ça fait partie de la démarche de foi. Maintenant, si on ne réalise pas et on ne marche pas dans la repentance, on va tout simplement continuer à dériver et finir sur la cible de la vie, bien, bien loin de ce que Dieu nous avait planifié d'avance. Il y a des visiteurs. Hein? Et c'est Belzébul. All right, on finit. Hey, à la maison, j'espère que vous êtes encore là. Est-ce que vous pouvez lever debout? Isabelle, si tu veux jouer du piano tranquillement. Je ne veux pas prendre trop de temps. Déjà, j'ai dépassé mon temps, mais j'espère que vous avez retenu quelque chose. J'espère que vous avez autant de plaisir à le recevoir. J'ai eu du plaisir à préparer ce message. Je crois que c'est un message qu'on doit toujours se remettre devant les yeux à entendre. Seigneur, ramène-moi sur le droit chemin. Ramène-moi. J'ai peut-être parti à la dérive quelque part. Mais la simple repentance, de dire, Seigneur, je change mes pensées. Tu peux juste jouer une composition personnelle. Alléluia, Seigneur. Et je veux juste terminer comme ça un matin. Si vous êtes à la maison ce matin, je prie que vous receviez aussi ce message, que vous receviez ce que Dieu veut faire partout où vous êtes. Et je prie qu'on ait juste un moment de repentance ce matin. Un moment de changement dans nos vies. Un moment de redirection. Papa veut vous ramener vers l'avant ce matin. Papa veut vous ramener vers l'avant ce matin. Et Père Céleste, je te remercie. Oui, tu es là, Seigneur. tu es là, Seigneur, ce matin, Seigneur. Tu t'es pas éloigné de nous, Père. C'est pas toi qui s'est éloigné de nous, Seigneur. C'est toi qu'on a dérivé peut-être du chemin, Seigneur, étroit, Seigneur. Du plan, Seigneur, que tu as pour nous, Seigneur. De ce qui est de l'avant, Seigneur. Ce qui est avant nous, pour chacun de nos vies, Seigneur. Chacune de nos vies. Et par cela, je te prie, Seigneur, ce matin, on puisse marcher dans un cœur de repentance devant toi. Et dire, Père, qu'est-ce qui a dérivé dans ma vie? Je veux changer maintenant, Seigneur. Y a-t-il une pensée qui dérive? Seigneur, renouvelle mes pensées. Seigneur, va dire dans sa parole de Dieu, dans Actes 3:19, il dit, celui qui la repentance, quand on se repent, il y a des temps de rafraîchissement qui viennent dans nos vies. Comment? Et Père, Seigneur, je te prie que des temps de rafraîchissement visitent nos maisons ce matin. Que des temps de rafraîchissement visitent nos vies personnelles. Là où on est asséché, comme Élie qui marchait dans le désert, asséché, dépassé, Seigneur. Tu viens et tu nous nourris, Seigneur. T'as envoyé les corbeaux pour le nourrir. T'as envoyé les anges pour le nourrir. Seigneur, toi-même, tu viens nous rafraîchir dans nos vies ce matin, Seigneur. Alléluia. Seigneur, si on a dérivé, Seigneur, je te prie que la repentance, Seigneur, devienne, Seigneur, un choix dans nos cœurs ce matin. C'est pas une émotion, c'est un choix, Seigneur. Je reviens à toi. Je retourne, je fais demi-tour, je mets mon visage devant toi alors que je m'éloignais et je t'ai fait dos, Seigneur. Ce matin, je retourne mon visage contre toi. Je fixe les yeux contre toi. Et comme Catherine elle a dit, Seigneur, je te laisse toutes les places de la maison ce matin, Seigneur. Tous les endroits, toutes les chambres, toutes les places de ma vie, Seigneur. Glorifie-toi ce matin. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Glorifie-toi à ce que tu fais, Seigneur, que ce soit en studio ou à la maison. Tout le monde qui va réécouter ce message, Seigneur, dans un temps ultérieur, Seigneur, que tu puisses te glorifier dans chacune de nos vies et que tu nous ramènes vers l'avant et qu'on puisse tendre toute notre énergie vers ce qui est devant nous, Seigneur. Seigneur, tu enlèves la distraction maintenant dans le nom de Jésus. Tu réveilles notre âme maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui aient dépassé la force d'établir les priorités et de lâcher ce qui est en arrière et tendre ce qui est en avant, Seigneur. Hallelujah, Seigneur. Si on est désillusionné, Seigneur, je te prie, Seigneur, que l'ennemi n'ait pas jeu dans notre cœur, mais qu'on puisse voir la vérité, Seigneur, voir la réalité des choses, Seigneur. Seigneur, je refuse la dépression, Seigneur. Il y en a qui sont tellement dépassés ce matin qu'il y a une fatigue chronique sur leur vie, qu'il y a même une déprime qui vient, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, on chasse la déprime. Maintenant, Seigneur, Seigneur, tu changes, Seigneur. Alléluia, Seigneur, c'est que tu changes, Seigneur, notre tristesse en allégresse, Seigneur. Et tu fais un changement dans les cœurs maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui sont à la maison ce matin, je prie que ta présence qui est déjà là puisse se manifester, Seigneur. Je prie que si vous êtes à la maison ce matin, que vous ayez un temps de repentance là où vous êtes et dire, Seigneur, je me tourne vers toi. Et si vous avez jamais donné votre vie à Dieu ce matin, si vous êtes à la maison ce matin, même ici dans ce lieu, et vous avez jamais donné votre vie à Dieu, Dieu vous interpelle ce matin. Dieu est là. Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu cogne à la porte de votre cœur et veut rentrer et demeurer avec vous et changer votre vie. Mais la repentance est la clé pour avoir une relation avec Dieu. La repentance, c'est pas juste regretter nos péchés, ça fait partie de ça. Mais c'est de dire, Seigneur, je change ma vie et je la vis comme toi tu veux. Je détourne, je fais demi-tour de la façon dont je vivais ma vie. Et maintenant, je fais face à toi. Et il y en a beaucoup qui nous écoutent. Dieu vous interpelle ce matin. Et je prie pour vous. Je prie que vous fassiez cette prière. Je prie pour vous. Seigneur, je prie, Seigneur, que les gens qui nous écoutent, Seigneur, ici, Seigneur, ou Seigneur, à travers, Seigneur, l'écran, Seigneur, peuvent dire, Seigneur, je te donne ma vie dans le nom de Jésus. On ne sait jamais qui nous écoute. Ça peut être un jeune, ça peut être une dame seule, ça peut être un couple, une famille présentement. Et je crois que le salut rentre dans votre maison ce matin, dans le nom de Jésus. Et que si vous prenez cette décision de dire, Jésus, je veux te connaître, viens habiter dans ma vie, votre vie ne sera plus jamais la même. Et vous allez avoir une direction pour votre vie. Dieu va vous amener vers des choses que vous n'avez jamais pensé vivre avant, parce que la vie de Dieu, come on, c'est la vraie vie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer ce moment ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer ce temps? On vous aime.
Vous venez d'écouter un podcast audio d'Oasis Église Rive-Sud. pouvez retrouver les messages et suivre en direct nos dimanches sur notre chaîne YouTube. Également, nous suivre sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas de consulter notre site internet à église-oasis.ca.